portrait, Roger Pélinck, dernier témoin de la résistance à Salon de Provence. Roger Pélinck, né à Salon, 94 ans, veuf, passionné de rugby. Vous êtes né à Salon de Provence. Je suis né dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1930, en face du Bourg Neuf, au 16 cours Victor Hugo à Salon. La sage-femme n'était pas là. Mon père a dû aller chercher dans la nuit le docteur Bernard, le futur président du Sporting Club Salonnais, et c'est lui qui m'a mis au monde. Votre famille était salonnaise. Mon père est né à Marseille et ma mère à La Brianne, dans les Basses-Alpes. Ma maman travaillait chez Madame Jaume au domaine de Richebois pour s'occuper de ses trois enfants. Mon père, lui, a commencé dès ses 14 ans à travailler comme saute-ruisseau, homme à tout faire, dans l'entreprise Brandis. Après son service militaire, il a rejoint l'usine de savon et d'huile du Lurian en tant que comptable. Vous avez grandi à Salon. Jusqu'à l'âge de 7 ans, je suis resté dans le centre-ville. À la maternelle, j'étais à l'école des Capucins. Je me rappelle encore d'Augusta, la femme de service qui portait de grosses lunettes épaisses, rire, et qui nous servait une infusion réglisse bois chaude l'hiver et froide l'été. Je n'aimais pas l'école. Ma mère me récupérait sous le lit pour y aller. Après, je suis allé à l'école David. Puis, en 1937, nous avons déménagé au Quintin et je suis allé à l'école de la gare. Pour la petite anecdote, mon grand-père avait participé à la construction de cette école. Qu'est-ce qui a changé à partir de 1939? La guerre a démarré, j'avais 9 ans. Dès le mois de septembre, mon père a été mobilisé en Alsace. Nous nous sommes beaucoup inquiétés car nous n'avions plus de nouvelles de lui. Il a été fait prisonnier le 11 juin 1940. Il s'est évadé le 12 avec un ami. Tous deux ont rejoint Salon à vélo le 17 ou 18 juillet. En 1942, les Allemands sont arrivés à Salon. Ils ont occupé les écoles, notamment l'école des filles. Une anecdote m'a marqué. Quand les Allemands sont venus dans notre école, il y avait des cartes postales que nous allions envoyer. Ils les ont prises, les ont déchirées et ont récupéré les timbres. J'étais petit, mais j'ai compris qu'ils avaient tous les droits. La rentrée 43-44 s'est faite de façon clandestine dans des maisons particulières, chez des enseignants, dans des remises, dans des entreprises, dans des champs. Qu'est-ce qui a changé après l'arrivée des Allemands ? Il y avait un couvre-feu. Pour pouvoir circuler après 20 heures, à pied ou à vélo, il fallait avoir un Ausweis, un laissez-passer. Seuls ceux qui travaillaient de nuit en bénéficiaient. La nourriture se faisait rare. L'été, il y avait des légumes, mais l'hiver, pas de légumes secs, pas de pommes de terre, pas de fromage, de la viande très rarement, que de la courge. Mais ce qui a vraiment changé, c'est la communication. La consigne était « bouche cousue ». On ne savait qui était en face de nous. Surtout que mon père faisait partie avec quelques autres hommes de l'opposition. En 1942, un groupe de résistants d'une trentaine de membres s'est formé, le groupe Roustan. Roustan était capitaine de réserve, et c'est lui qui a été désigné comme leader. La résistance s'est alors organisée. Elle prenait plusieurs formes et chacun jouait un rôle à son niveau. Les femmes étaient les messagères quand elles allaient faire les courses. Les paysans utilisaient les sacs de seigle et ils roulaient à l'intérieur des journaux clandestins et des tracts qu'ils allaient chercher à Aix. Puis, en juin 1944, tout s'est subitement arrêté. Le 7 juin 1944, Marcel Roustan a été arrêté. Lui et tous les résistants ont été dénoncés par un agent français qui avait été parachuté en mai 1944 pour organiser la résistance en Provence et réunir tous les groupes. Il a vendu tous les noms à la Gestapo contre de l'argent et a donné toute la résistance de Salon de Provence à Saint-Rémy, en passant par Port-de-Bouc. Roustan a été torturé pendant une semaine. Ensuite, la Gestapo est allée à Bel Air, chez Jules Morgan. Il y en a un qui a réussi à en réchapper, c'est Émile Tricon. Quand ils ont arrêté Morgan, l'arroseur a vu ce qui se passait et est allé vite prévenir Émile qui stockait des armes sous les sacs d'engrais. Fort heureusement, le curé de Saint-Chamas est venu les récupérer. Quand les Allemands sont arrivés, ils n'ont trouvé ni armes ni Émile Tricon. Ils ont soulevé son fils Sylvain par les cheveux, mais il n'a pas parlé et n'a jamais dit où son père se cachait. Puis les Allemands sont partis à la ferme du petit Sonnaillet pour arrêter Gaston Cabrier. En descendant du Val de Couëche, Roustan, Morgan et Cabrier ont été fusillés, frappés de plusieurs balles de mitraillette dans la nuque. Ils ont été retrouvés seulement 3 jours après. Après cette terrible journée, comment a évolué la situation? Après le 15 juin, c'était la crainte, l'immobilisme, tout le monde attendait la libération. Les résistants se faisaient tout petits. Nous avons caché à la maison pendant 8 jours l'un des piliers du groupe Roustan, Pierre Antonelli. Je me souviens que je n'étais pas autorisé à dîner avec eux. Les Allemands, eux, voulaient tout détruire avant leur départ. Le 21 août, la veille de la libération, j'ai vu passer dans la rue de l'Horloge toute une équipe d'Allemands avec une carte et des longues vues. Ils sont montés au château où logeaient les jeunesses hitlériennes. Quand ils sont redescendus, j'ai vu de la fumée. Ils avaient brûlé tout ce qui restait et qu'ils ne pouvaient pas emporter. À la gare, il y avait un convoi bloqué sur une voie de chemin de fer avec des munitions. Le 22 août, vers 13 heures, 2 Allemands sont arrivés en motocycle-car. Ils ont fait le tour du quartier pour demander aux habitants de quitter leur maison, puis ils ont fait tout exploser. Le quartier a été dévasté, notre maison brûlée. Un bout de la voie ferrée a été retrouvé à Grance, à plus d'un kilomètre. Mon père a été légèrement blessé. Les Allemands ont aussi fait sauter le dépôt de munitions de Lamanon, le pont du canal pour aller à Sénas, à Aiguière. Les Américains sont arrivés le 22 août en fin de journée. Comment ont été accueillis les Américains? C'était une grande fête, enfin presque, car il y avait 149 familles sans toit au Quintin. Les familles des déportés ou des prisonniers n'ont pas fait la fête non plus. C'est Albert Richaud qui a reçu le premier Américain avec le secrétaire général de la mairie. Les Allemands qui restaient ont été faits prisonniers. Il a fallu recruter 100 personnes pour les garder. Et après 44 ? Après 44, ce fut la reconstruction. Nous avons été relogés. Certificat d'études en poche, je suis rentré en apprentissage à la SNCAS, où travaillait mon père. J'ai été viré à la fin de la première année, mais le licenciement n'était rien à côté du sermon de mon père en rentrant à la maison. Ensuite, j'ai préparé un CAP d'ajusteur pendant 2 ans à Marseille. Après mon apprentissage, j'ai intégré l'entreprise de maçonnerie de mon père, dont j'ai pris la succession en 1968 jusqu'en 1995, ma dernière année avant la retraite. Côté loisirs, comme Roustan, j'ai toujours été passionné de rugby. Le rugby, pour moi, c'était une deuxième famille. J'ai joué au Sporting, puis entraîné les juniors. J'aime toujours aller les voir jouer. Aujourd'hui encore, on se retrouve avec une 50aine d'anciens, une fois par mois, autour d'un repas. Vous avez été marié? Mon épouse, je l'ai rencontrée le 1er octobre 1937. J'avais 7 ans. Elle accompagnait son frère qui était dans ma classe. On habitait dans le même quartier. Je l'ai toujours aimée. Nous nous sommes mariés le 26 février 1956. Il y avait de la neige à Salon. Nous sommes restés ensemble jusqu'à son dernier souffle, il y a 2 ans. Ensemble, nous avons eu une fille, mais elle est morte à sa naissance. Elle aurait 61 ans aujourd'hui. Salon a évolué, Vous aimez cette ville ?
J'ai surtout aimé le salon de mon enfance. Tout le monde se connaissait et on vivait ensemble dans la rue.